Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et vous écoutez Fréquence Mistral, nous sommes avec Émile Rabreau des Refuges Solidaires et Chloé Laurieux, chargée de projet chez Médecins du Monde. Et ensemble, on va parler donc de l'accueil à Briançon des exilés et on va dans l'émission suivre le déroulé de la prise en charge, de l'accompagnement de ces personnes lorsqu'ils et elles arrivent à la frontière. Alors avant cela, quand même, il y a une histoire de cette frontière, c'est pas nouveau que des personnes passent par ici. Est-ce que vous pourriez nous recontextualiser cet exil, ce lieu, cette route?
Alors, je pense que ce qui est une date importante à retenir, c'est 2015. En 2015, la France rétablit les contrôles intérieurs, aux frontières de l'Union européenne. Et donc, à partir de cette date, la frontière, notamment à Montgenèvre, mais également au niveau de Menton et à d'autres endroits, redevient contrôlée. Et progressivement, les gens qui donc passent par la frontière se trouvent donc confrontés aux forces de l'ordre, ce qui va provoquer des traversées qui sont beaucoup plus compliquées et une mise en danger des personnes. Donc, il faut bien retenir cette date de 2015. Et localement, les montagnards briançonnais rencontrent des personnes qui tentent de traverser la montagne, qui ne maîtrisent pas forcément les sentiers, qui se retrouvent en danger. Et donc, une solidarité s'organise avec des personnes qui pratiquent la montagne, qui considèrent de leur devoir de venir en aide à des personnes qui se trouvent en situation de danger et de détresse. Et là, de là est né ce qui devient actuellement le collectif Réduction des risques en montagne, qui ne travaille que côté, enfin travaille, qui n'aide que côté français, mais qui vient en aide et au secours des personnes qui sont éventuellement en difficulté dans les montagnes.
Et qui est né à ce moment-là, à cette date-là?
Entre 2015 et 2017, oui.
Et puis, il y a aussi cette solidarité qui s'organise de manière informelle, comme le dit bien Chloé, à partir de 2015. La solidarité, elle s'organise de manière informelle, notamment pour venir en aide et en soutien aux personnes exilées qui traversent la frontière, mais aussi pour les héberger, pour les accueillir, le temps de quelques jours, de quelques instants, pour faire en sorte qu'elles puissent trouver du repos. Avant de continuer leur parcours, parce qu'il faut savoir que Briançon, depuis des millénaires, est un lieu de passage, que c'en est toujours un, et que les personnes exilées qui traversent ici, une fois reposées pendant quelques jours, vont ailleurs pour continuer leur parcours d'exil. Cette solidarité, elle s'organise d'abord dans la vallée de la Clarée. Parce que les personnes exilées traversaient majoritairement en fait le col de l'Échelle. Et progressivement, en fait, ce passage s'est déplacé au col de Montgenèvre. Et puis les associations, il y a Refuge Solidaire notamment, qui a été créé à partir de 2017 pour faire de l'hébergement d'urgence, sortir de la question de l'informalité, parce qu'auparavant, c'était géré par des personnes, des citoyens et des citoyennes engagées qui, justement, avaient à cœur de pouvoir accueillir, à défaut d'un engagement de la part de l'État, sur le territoire.
Il y avait déjà de l'accueil auparavant, avant ces associations qui sont montées à partir de 2015, ou en tout cas cette aide. Il y a des traces d'aide auparavant déjà avec ce passage?
C'est ce passage, en fait, l'école col de Montgenèvre et le col de l'Échelle, c'est les cols les plus bas des Hautes-Alpes. Donc en fait, historiquement, depuis des millénaires, comme je le disais, en fait, ça a toujours été des lieux de passage d'un point de vue économique, commercial, militaire et migratoire. Et du coup, ces questions d'exil et d'accueil, en fait, elles ont été valables déjà auparavant. Après, ça a été d'autant plus conséquent et important à partir de 2015, tout simplement parce que ça concerne en fait toute l'Europe. En fait, ces enjeux liés à l'exil et les besoins d'accueil qui augmentent, en fait, tout simplement, ça s'est organisé sur le tas, de manière informelle, tout simplement parce que, en fait, quand on croise une personne qui a les pieds dans la neige, qui est non équipée, et en fait, qu'elle est à juste deux rues de notre porte où on vit, en fait, c'est quand même difficile de ne pas accueillir quand on voit le niveau de vulnérabilité dans lequel les personnes arrivent.
Et donc, c'est ce que vous faites maintenant de façon organisée à des moments différents. Donc, Chloé, vous, c'est avec Médecins du Monde, vous allez faire des maraudes, ce qu'on appelle des maraudes, vous allez à la frontière pour justement accueillir directement, juste au moment de leur passage, les personnes exilées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites ?
Alors, Médecins du Monde participe à un collectif de réduction des risques en montagne. Comme je le disais tout à l'heure, donc les sentiers peuvent être dangereux chez des personnes qui n'ont pas forcément connaissance des risques que représente la montagne, qui ne viennent pas forcément de pays montagneux. Et donc, un certain nombre de personnes se sont organisées pour venir à assistance. Côté français, et je le répète, c'est extrêmement important, on intervient côté français, notamment parce que c'est là que les sentiers sont le plus dangereux. Et du coup, on propose une assistance aux personnes qui le souhaiteraient. Cette assistance, elle consiste essentiellement dans la possibilité, si elle le souhaite, d'être mise à l'abri. Nous, concernant au niveau de Médecins du Monde, ce qu'on propose, c'est un véhicule avec un chauffeur et un soignant qui peuvent évaluer l'état de santé des personnes rencontrées et en fonction, soit les accompagner vers refuge solidaire, soit les accompagner vers les urgences ou bien déclencher les secours en montagne selon l'évaluation qu'on en fera.
Et comment vous êtes au courant qu'il y a des personnes à tel endroit ? Vous allez à leur rencontre ou on vous contacte ?
Non, c'est le principe, c'est un principe d'aller vers. Après, je pense que dans la vallée, il y a un certain nombre de personnes qui savent quels sont les sentiers qui peuvent être empruntés. Et puis, voilà, on va au-devant des personnes, côté français, et en fonction de leurs souhaits, on peut leur proposer un thé, de quoi se réchauffer, ou bien éventuellement, si elles le souhaitent, un accompagnement vers la mise à l'abri à refuge solidaire.
Vous leur demandez et ensuite c'est les personnes qui choisissent, vous leur laissez ce choix-là.
Exactement, c'est leur vie, c'est leur parcours et on le respecte. En revanche, on est effectivement très sensible aux risques qui peuvent être pris, en particulier en période hivernale, avec tout ce qui est risque de gelure ou autres risques liés à la pratique de la montagne lorsqu'on n'est pas forcément correctement équipé.
C'est une pratique qui est aussi dangereuse par certains aspects pour vous. Enfin, en tout cas, vous vous mettez en danger dans le sens d'une prise de risque, dans le sens où c'est interdit, il y a les forces de l'ordre qui surveillent également. Quelles sont vos relations avec les forces de l'ordre ?
Très honnêtement, les relations ne sont pas très bonnes, forcément, vous en doutez, puisque l'objectif de l'État français, c'est de globalement refouler les personnes vers le territoire italien. Et pour note, l'année dernière, en février 2024, le Conseil d'État a pris un arrêt qui précise qu'en fait, ces refoulements qui avaient lieu jusqu'alors sont illégaux et que les personnes qui désirent demander l'asile en France doivent pouvoir accéder au territoire français. On a vu une nette amélioration des conditions de passage et donc de ce fait de l'état de santé des personnes entre février et novembre dernier. Et puis malheureusement, les conditions se sont de nouveau dégradées. Nous concernant, l'unité mobile de mise à l'abri, elle est reconnue par la préfecture. On a un courrier de la préfecture qui indique qu'on est complémentaire au service de secours de l'État. Malheureusement, il nous arrive d'être contesté par les forces de l'ordre, ce qui nous est arrivé cet hiver, encore une fois, où on a eu une extraction du véhicule et où l'autorité de la soignante qui était présente a été contestée et les personnes ont été ramenées au poste frontière, puis expulsées vers l'Italie.
D'accord, donc c'est pas toujours évident comme relation encore aujourd'hui.
Non, et puis on constate aussi, on constate et on nous fait part assez régulièrement de mise en danger, soit de courses poursuites où les forces de l'ordre poursuivent des personnes sur des sentiers escarpés et dangereux, voire même récemment on a eu quelques témoignages de situations de violence policière.
Là, c'est pour les personnes exilées ou aussi au sein de...
Pour les personnes exilées, et après on a une pression assez régulière avec des contrôles fréquents des personnes qui viennent porter assistance, en fait, avec des contrôles d'identité et une certaine pression sur les solidaires. Et puis, peut-être juste pour vous rappeler qu'en fait, cette frontière, elle a fait des morts. On est à plus de 12 décès sur les dernières années, donc C'est pas anodin, et c'est aussi pour ça qu'on est présent.
Et vous êtes présent, et donc vous les accueillez, et lorsque les personnes l'acceptent, vous les amenez donc au refuge solidaire. Et c'est là où, Émile, vous intervenez, vous, les refuges solidaires, qui sont donc des centres d'hébergement. Donc, vous disiez, vous accueillez, vous offrez un toit, une douche, à manger. Qu'est-ce qui se passe au refuge?
Oui, mais on est un hébergement d'urgence. Nous, on se définit comme un lieu de répit et de repos qui applique, défend et revendique sa vision de l'accueil digne et inconditionnel. Depuis le 2017, donc l'année de la création de l'association, on a accueilli plus de 34 000 personnes exilées. Il y a un réel besoin sur le territoire. Il y a beaucoup de passages. Notre association, elle fonctionne uniquement par financement privé, par des dons particuliers. L'État est inactif concrètement sur le territoire.
Vous n'avez pas de subvention de l'État?
On n'a pas de subvention de l'État. Il y a 7 places d'hébergement d'urgence publique à Briançon. Alors qu'il faut savoir que nous, chaque soir, on peut accueillir de 5 personnes, voire 50, 60, 80 personnes, en fonction de la période et des besoins.
Mais vous avez des chiffres là-dessus, alors?
On a des chiffres là-dessus. Donc déjà, en fait, tout simplement, si on fait une moyenne qui n'a pas trop de sens, même si ça, quand même, ça met en évidence en quoi est-ce que nous, on parle de manquement délibéré de la part de l'État sur le territoire briançonnais en termes d'accueil. Depuis 2017, on a accueilli 34 000 personnes. Ça fait en moyenne 12 à 15 personnes accueillies par nuit. Il y a 7 places d'hébergement 115 à Briançon. Donc c'est un chiffre qui est totalement déconnecté des réalités et des besoins d'accueil sur le territoire. Et puis, en fonction des périodes, on accueille plus ou moins de monde. Ça dépend. En hiver, généralement, il y a moins de monde, tout simplement parce que les conditions sont particulièrement difficiles, ce qui n'empêche pas que des personnes passent et ce qui n'empêche pas non plus qu'en été, les conditions restent difficiles. Mais généralement, c'est souvent en été. Et c'est lié aussi au fait que les conditions météorologiques pour la traversée de la Méditerranée sont plus adaptées, parce qu'on sait qu'on accueille un public qui est majoritairement passé par la Libye, qui est passé par la Méditerranée, par Lampedusa, et puis derrière, après, qui arrive à Briançon. Et ce chiffre varie. Nous, notre priorité, c'est d'accueillir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. On ne sait jamais combien de personnes va débarquer. Par contre, on sait qu'on doit, dans tous les cas, s'organiser pour pouvoir accueillir dignement les personnes qui nous solliciteront, pour faire en sorte qu'aucune personne ne dorme à la rue. Parce que si on n'existait pas, c'est ce qui se passerait. Les personnes, après avoir traversé la frontière de l'Italie à la France, elles n'auraient aucun lieu où dormir, alors même qu'on pourra le développer tout à l'heure, qu'elles sont en très grande partie particulièrement impactées déjà par leur parcours d'exil et aussi par leur traversée à la frontière franco-italienne haute. Un exemple qui est quand même assez éloquent, c'est que pour certains et certaines personnes qui traversent cette frontière, elles comparent en fait la traversée des Alpes à leur traversée de la Méditerranée. Pour dire aussi à quel point la traversée en fait peut représenter une souffrance, une violence et un danger en fait pour ces personnes.
Et donc lorsqu'elles arrivent, elles restent, vous disiez vous avez 7 places, donc vous arrivez quand même à leur trouver des places pour dormir, pour rester.
Alors les 7 places, c'est hébergement sans case d'urgence publique. Donc c'est pas nous.
Ah oui, pardon.
Ouais.
Oui.
Nous, nous, heureusement, fort heureusement, on a quand même plus de places. On a 80 places au refuge. Nous, on est situé dans les hauteurs de Briançon. Et puis en été, on peut avoir aussi plus de places. Il faut savoir qu'on a installé 2 tentes humanitaires fournies par les Médecins du Monde qui permettent d'augmenter notre capacité d'accueil de 120 à 120, 130 personnes dans le bâtiment. L'attente humanitaire, c'est quand même quelque chose qui est important. On a souvent dans nos imaginaires l'impression que cette attente humanitaire, en France, elle n'existe qu'à Calais, et elle n'existe nulle part ailleurs en France. Et l'attente humanitaire, c'est une vision un peu qu'on a dans les lieux de guerre en dehors de la France, en dehors de l'Europe. À Briançon, il y a des tentes humanitaires. Il y a des tentes humanitaires parce qu'il y a des besoins qui sont conséquents, qui augmentent. Et nous, en tant qu'association, on assume cette responsabilité d'héberger coûte les gens. Ce qu'on fournit à Briançon, au refuge solidaire, c'est déjà tout d'abord les trois besoins fondamentaux auxquels toute personne doit avoir accès pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est une mise à l'abri inconditionnelle, 24 heures sur 24. Notre refuge, il est tout le temps ouvert. Parce qu'à tout moment, on sait que des personnes peuvent débarquer dans des conditions qui sont dans des états très difficiles, des états d'épuisement, voire des blessures conséquentes. Donc on est ouvert 24 heures sur 24. On fournit aussi de la nourriture, évidemment, une alimentation, matin, midi, soir, ça va de soi. Et il faut savoir que il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à cette alimentation, à une alimentation saine et équilibrée depuis quand même un certain temps. Et en troisième point, on a aussi l'accès aux soins, que je laisse détailler ici par Chloé.
Et je vous propose, Chloé, que vous nous expliquiez cela juste après la pause musicale. On écoute ensemble, vous en parliez tout à l'heure, Gaël Faye, Petit Pays.
Toyi gahugu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaise mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant trois mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Thank you.
38 dans le magazine du Midi. Nous parlons de l'accueil à Briançon, la prise en charge des personnes exilées qui viennent de passer la frontière au col de Montgenèvre. Donc pour cela, nous sommes avec Émile Rabreau des Refuges solidaires et Chloé Lorieux de Médecins du Monde. Et donc dans la première partie, nous retraçons en fait le parcours, on va déjà reparler de ça, retraçons le parcours d'une personne exilée qui passe la frontière avec les maraudes qui sont réalisées par Médecins du Monde, mais pas que, par d'autres associations locales. Ensuite, des personnes qui sont amenées au refuge solidaire, au pluriel, qui sont un hébergement d'urgence, hébergement d'accueil d'urgence. Et ensuite, donc, il y a, entre autres, dans ces hébergements, la possibilité d'avoir accès à des soins. Et c'est là où Médecins du Monde intervient. Qu'est-ce que vous faites dans ces permanences, Chloé Lorieux?
Alors, nous, on propose des consultations qui sont médicales et paramédicales, donc des soins de santé primaire, type médecine générale, et des soins infirmiers, en complémentarité avec la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital de Briançon, qui intervient 4 à 5 matinées par semaine. Et nous, on intervient les après-midi et le week-end. Et on propose également des temps d'écoute avec des psychologues bénévoles.
Donc, vous êtes présent quasiment tous les jours, alors
En fonction des disponibilités des bénévoles, c'est ce qu'on essaye de faire, en particulier en période estivale, où les besoins sont beaucoup plus importants du fait du nombre d'arrivées à Refuge Solidaire.
Parce que ce sont que des bénévoles qui viennent alors, mais des professionnels de santé qui interviennent.
Tout à fait. Des bénévoles, donc professionnels de santé, qui peuvent être soit des salariés ou des professions libérales, soit des personnes retraitées qui décident de consacrer du temps aussi à poursuivre cette activité de soins à destination de personnes qui sont plus éloignées des soins, forcément.
Et quel type de soins ont besoin ces personnes? Est-ce que c'est tout type de soins? Est-ce qu'il y en a qui reviennent?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a en gros un quart de nos... Alors, peut-être pour recontextualiser, au niveau de la cellule médicale, Médecins du Monde voit en moyenne un tiers des personnes qui sont accueillies par Refuge Solidaire. Donc, ce qui donne une idée de l'ampleur des besoins, sachant qu'à côté de ça, la permanence d'accès aux soins de santé voit également un certain nombre de patients. Globalement, plus de la moitié des personnes qui passent par Refuge Solidaire sont vues en consultation. Donc ça vous donne une première idée des besoins en santé des personnes.
Et si elles sont vues, c'est qu'elles ont besoin d'être vues. Ce n'est pas une obligation quand on arrive au refuge de venir vous rencontrer.
Absolument pas. Les bénévoles à l'accueil sensibilisent sur le fait qu'il y a une présence médicale et paramédicale. Nous le faisons également, mais les personnes viennent d'elles-mêmes nous consulter. Ensuite, en termes de pathologies, on a un quart des pathologies à peu près, ou des motifs de consultation, qui est en lien avec la traversée, en lien direct avec la traversée de la montagne, que ce soit en période hivernale des problématiques type gelure, que ce soit des plaies, des traumas en torse, voire fractures dans certains cas suite à des chutes. Enfin, en tout cas, ça témoigne de la difficulté du parcours en montagne. Et ensuite, la plupart des motifs de consultation sont également en lien avec le parcours. Les personnes qui arrivent, c'est des personnes qui sont jeunes, qui ont quitté leur pays en bonne santé. Sinon, elles n'auraient jamais pu avoir ce parcours. Ces personnes qui viennent actuellement plutôt du Soudan, d'Éthiopie, d'Érythrée, qui sont passées par la Libye, souvent un nombre de mois assez long, et dont l'état de santé s'est dégradé au fur et à mesure du parcours. Si on rajoute à ça la traversée de la Méditerranée, la difficulté à pouvoir consulter des médecins sur tout le parcours, que ce soit par manque de moyens financiers, par manque d'accès à des médecins, ou par crainte d'arrestation, l'état de santé se dégrade. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une partie des personnes qui viennent nous voir, qui n'ont pas vu de médecin depuis très 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 longtemps, qui ont pu parfois laisser traîner certains problèmes de santé qui se sont aggravés au fur et à mesure du temps. On a en moyenne un tiers de nos consultations qui concernent des pathologies cutanées avec des plaies qui peuvent être surinfectées, en lien notamment avec les conditions de vie dans les pays de transit, précarité, insalubrité, difficulté d'accès à l'hygiène, etc. On rencontre aussi là, actuellement et de plus en plus des femmes ou des enfants, les enfants avec des statuts vaccinaux complètement incertains, des femmes parfois avec des stades de grossesse très avancés qui n'ont pas eu de consultation prénatale, et puis des personnes qui ont pu vivre des violences importantes en Libye. On a des personnes qui arrivent avec des situations de grossesse non intentionnelle en lien avec des violences subies. des situations qui sont plutôt très complexes et qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire aussi, parce que ça nécessite de travailler avec l'accueil de refuges solidaires sur de l'information, sur les droits des personnes, sur le parcours, la suite du parcours, pour pouvoir aussi s'assurer que le parcours de soins se pérennise en fait, parce qu'évidemment elles n'ont pas vocation à rester, elles ne souhaitent pas rester dans le Briançonnais, mais par contre il faut qu'on soit sûr que les soins puissent se poursuivre dans la durée.
C'est ce que j'allais demander, comment vous assurez les prises en charge, puisque les personnes ne vont pas forcément rester ici longtemps, et ça peut demander, j'imagine, des soins sur le long terme.
Alors, on travaille, déjà, on travaille vraiment en partenariat et en grande proximité, à la fois avec Refuge Solidaire et à la fois avec, avec l'hôpital, pour permettre que les personnes qui en ont le besoin puissent accéder à des soins complémentaires, à des consultations spécialistes ou à des examens complémentaires lorsque c'est nécessaire. Ensuite, on a tout un travail d'information et d'orientation en fonction des lieux de destination des personnes, de façon à ce qu'elles aient la bonne information sur là où elles peuvent se rendre pour pouvoir continuer leur parcours. Mais ça nécessite aussi, évidemment, un accès aux droits. On a parlé récemment de l'AME, etc. C'est vital pour pouvoir permettre que l'état de santé de ces personnes ne se dégrade pas.
Oui, tout à fait. Ça s'accompagne du coup d'une aide aussi au niveau social, juridique, pour avoir accès à ces droits, j'imagine. Et ça, au Refuge Solidaire, vous les accompagnez là-dessus ?
Exactement, c'est ça. En fait, nous, ce qui nous intéresse aussi à Refuge Solidaire, c'est de définir clairement qu'est-ce qu'on entend par dignité et inconditionnalité. De plus en plus, ça peut devenir un mot valise, peu clair, un peu flou. Et en fait, grâce aussi à l'intervention de Médecins du Monde et à d'autres associations, on arrive à enrichir cette notion de dignité, à la fois avec ces trois besoins de première nécessité qui ont été évoqués tout à l'heure, aussi, comme Chloé le disait, un accompagnement pluridisciplinaire, médico-social, juridico-administratif, notamment par la CIMAD, qui intervient aussi pour donner accès à l'information aux personnes exilées qu'on accueille à Refuge Solidaire. Et on a tout un travail aussi où, concernant l'accueil et l'accompagnement, c'est la raison pour laquelle on est Refuge Solidaire au pluriel. C'est parce que il existe aussi un plus petit refuge à Guillestre qui accueille des personnes exilées sur un moyen terme, qui sont identifiées par les services médico-sociaux du bâtiment comme étant particulièrement vulnérables. Ce qui ne veut pas dire que les personnes exilées qu'on accueille toutes ne sont pas vulnérables, parce qu'elles le sont toutes. Mais comme on est des associations et qu'on est aussi réduit en moyens, on est aussi contraint et contrainte de voir quelles sont les personnes prioritaires. Et donc, c'est ce qui est réalisé. Donc, il y a notamment cet accompagnement sur moyen terme qui est effectué grâce au Refuge Solidaire de Guillestre et non pas de Briançon. On a aussi tout un tas d'activités qui sont proposées au sein du bâtiment. Et les activités, c'est l'outil de médiation par excellence, notamment parce que, vous l'imaginez, les personnes qu'on reçoit et qu'on accueille, elles sont pas francophones. Nous ne parlons pas non plus amharique ou arabe, par exemple. Donc les activités, c'est quand même fondamental. Ça permet la rencontre, ça permet aussi la création de liens de confiance auprès de personnes qui ont quand même eu l'occasion à de nombreuses reprises de voir ce lien de confiance rompu au fil de leur parcours. Et ces activités, elles s'engagent vraiment dans une logique de réhumanisation des quotidiens. On sait très bien que les personnes exilées ne vont pas s'implanter à Briançon, mais on sait par contre l'effet que produit l'accueil qu'on propose à Briançon auprès des personnes qu'on accueille. Souvent, on peut entendre des personnes nous dire déjà merci, et aussi les entendre nous dire que c'est, si ce n'est la première fois, au moins une des premières fois depuis le début de leur parcours, qu'elles ont pu se sentir en sécurité, écoutées, qu'elles ont pu se reposer et aussi, parfois, participer juste à des tâches bénévoles, c'est-à-dire faire le ménage, aider à la cuisine, aider au service. Et ça, c'est aussi l'autre point sur lequel on travaille beaucoup au sein du bâtiment, c'est sur la question de l'inclusion. La question de l'inclusion des personnes exilées qui sont là pour quelques jours. Comment est-ce qu'on les inclut pour faire en sorte qu'elles puissent avoir le choix soit de se reposer, soit de participer, notamment pour leur donner la possibilité, en fait, de revenir à nouveau progressivement un peu agentes de leur quotidien. Et donc, on a différents cas qui sont proposés, notamment des plénières des habitantes et des habitants qu'on organise deux fois par semaine, qui ont vocation, en gros, à donner la liberté de parole en fait aux personnes qui sont accueillies, pour nous faire des retours, pour proposer des activités aussi elles-mêmes, voire même nous faire des critiques en fait, parce que nous notre objectif c'est qu'on soit le plus adapté et qu'on réponde au mieux à leurs besoins, et donc évidemment qu'il faut accepter une forme de remise en question potentielle pour répondre au mieux en fait à ce que nous demandent les personnes exilées. Et donc tout ce cheminement permet de dépasser le cadre classique de la dignité, qui reste fondamental, hein, je précise, mais qui permet d'aller au-delà et en fait de faire de ce lieu un lieu de répit et de repos, de dignité et d'inconditionnalité pour les personnes exilées, en sachant que ce lieu-là, l'effort collectif en fait de la gestion de ce lieu, il se fait grâce à des personnes salariées, mais aussi à des bénévoles. Nous, à Refuge Solidaire, en 2024, on a reçu de l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui n'habitent pas sur Briançon et qui viennent pour 2-3 semaines, on a reçu de l'extérieur plus de 600 personnes. Et on a la chance de pouvoir bénéficier de cette solidarité intercalaire, hein, que ce soit en France, mais aussi des personnes qui viennent de Belgique, de Suisse ou que sais-je, et des personnes qui habitent aussi Briançon, qui sont elles spécialisées dans des tâches quotidiennes, qui sont environ une trentaine, quarantaine, et qui permettent vraiment le maintien et la qualité aussi de l'accueil qu'on propose au plus possible en fonction des besoins. Voilà.
Très bien, je voulais rebondir, donc ça tombe très bien. Parce que donc, ce sont que des bénévoles au sein du Refuge Solidaire, ou est-ce que vous avez des salariés?
Alors, on n'a pas que des bénévoles, on a une équipe salariée qui était de 7 personnes salariées en 2024 et début 2025. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi, mais maintenant, en fait, on a moins de salariés parce que, en fait, depuis 2 mois, on traverse une grosse crise financière. Et du coup, en ce moment, l'association a toujours beaucoup reposé sur les bénévoles. Et là, on a besoin encore plus de soutien bénévole du fait de la situation difficile qu'on est en train de traverser. Pour moi, c'est aussi important de rajouter quelque chose, c'est que la question de la dignité, elle passe aussi dans le fait de prendre soin. De prendre soin des autres. Et notre posture aussi en tant qu'association, c'est d'orienter et d'accompagner au plus les bénévoles qui participent à l'effort collectif, de prendre soin d'elles et eux avant de prendre soin des autres. Et du coup, ça passe aussi par tout un tas de différents cadres, de cadres de débrief, de groupes de parole qui sont notamment travaillés en partenariat avec Médecins du Monde, qui permettent en fait de prendre soin des bénévoles et que du coup, les bénévoles puissent prendre soin des personnes qui sont accueillies au refuge.
Tout à fait, tout à fait. Et justement, j'allais demander, on n'a pas creusé en tout cas, la partie aide psychologique, accompagnement psychologique par Médecins du Monde. Et ça me fait penser à ça parce que peut-être que, je ne sais pas dans quelle mesure vous intervenez aussi auprès des bénévoles et des salariés, mais est-ce que vous avez un accompagnement psychologique aussi auprès peut-être du personnel accueillant et des personnes accueillies?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui arrivent à Refuge Solidaire, pour la plupart, sont dans des situations de détresse psychologique. Qui dit détresse ne veut pas dire pour autant trouble ou pathologie psychologique ou psychiatrique. En revanche, une aide est nécessaire, ou un premier accueil est nécessaire. Et on sait que la réponse aux besoins fondamentaux permet de diminuer sa détresse. Et donner une information permet de diminuer sa détresse. Après, il reste certaines personnes qui ont des niveaux de détresse tels que ça ne suffit pas. Et c'est là où nous, on va intervenir avec des psychologues bénévoles ou des infirmiers bénévoles qui ont une expérience en santé mentale. Parfois, ça va ressortir au niveau du corps, et donc c'est des personnes qui vont être vues au niveau de la cellule médicale. Et c'est des personnes qui peuvent présenter des états de stress post-traumatique, des choses comme ça. Ça aussi, ça ressort évidemment au niveau des bénévoles, et de façon à ce que la solidarité soit durable, l'hospitalité soit durable, on propose également des groupes d'analyse de pratique qui sont du coup animés par un et une bénévole psychologue de Médecins du Monde, ce qui permet de se poser la question de comment on accompagne, comment on se positionne, notamment quand on fait face à des récits particulièrement difficiles, des récits de vie particulièrement difficiles, de trajets particulièrement difficiles, et de façon à effectivement être le plus ajusté possible et pouvoir durer dans le temps, parce qu'en fait, cette solidarité, on le voit, elle dure depuis très longtemps.
et donc durer dans le temps. Ça nous amène à ce que vous disiez, donc Émile, que les refuges aujourd'hui ont donc des difficultés. Il y a moins de salariés, des difficultés financières. Vous faites beaucoup d'appels, d'importants appels à dons en ce moment. Il nous reste seulement 5 minutes avant la fin de cette émission, donc j'aimerais quand même qu'on en parle. C'est une situation qu'on retrouve dans de nombreuses autres associations, hein. C'est pas seulement au refuge. D'ailleurs, j'annonce le magazine de la semaine prochaine. Mardi prochain, nous recevons Simon Plantier pour parler de la situation financière des associations et notamment de la baisse des subventions. Qu'en est-il pour vous au refuge alors ?
Mais déjà, un élément contextuel avant de répondre à ces questions. En février 2025, ont été votés le budget 2025 à l'échelle nationale au Parlement. Et dans ce budget 2025, il y a eu énormément de coupes budgétaires, comme beaucoup de personnes le savent, et notamment à l'égard des actions sociales. Nous, en tant qu'association, on l'a déjà dit, on ne touche pas de subventions directes de la part de l'État. Par contre, on dépend de fondations privées qui, elles, ont de l'argent de la part de l'État. Comme elles ont un budget réduit, et comme aussi d'autres petites structures associatives qui elles-mêmes bénéficiaient de subventions directes de l'État n'en ont plus, elles se rattachent aussi à ces fondations privées, et donc ces fondations privées ont une double pression qui fait qu'elles sont obligées aussi de réduire drastiquement leurs subventions, si ce n'est de les couper totalement. Et donc nous, on a un peu appris ces coupures budgétaires drastiques, ou même ces annulations de subventions à l'égard de notre association, un peu en escalade et très rapidement, en fait, de manière assez brutale, en mars dernier. Ce qui fait que ça a vraiment rendu particulièrement vulnérable notre maintien. Depuis 2 mois, fort heureusement, on mène une campagne de levée de fonds, de dons, qui a pour le moment fonctionné. Et ça nous rassure aussi beaucoup de se rendre compte, en fait, que lorsqu'on fait appel aux citoyens, aux citoyennes, aux personnes engagées, aux personnes qui sont attachées aux valeurs de dignité, d'inconditionnalité, de solidarité, qu'elles répondent présent, en opposition aux politiques publiques quand même assez hostile à Briançon, on peut le dire. Et donc vous parliez de situations difficiles. On traverse la plus grave situation depuis 2017, en fait, concrètement, de notre association. Et on a besoin de soutien. On a besoin de soutien matériel et humain, notamment bénévoles, des bénévoles qui pourraient venir 2 mois à 6 mois à Briançon pour partager des tâches de permanence d'accueil. Parce que, en effet, et c'est assez dur, mais on a dû licencier une grande partie de nos salariés, et donc on a besoin de monde pour continuer ce travail-là. Évidemment, ils seront formés, et donc on mène cet appel à soutien financier principalement, évidemment, aussi, et vous pouvez retrouver notre cagnotte sur Eloasso Refuge Solidaire sur internet.
L'appel est lancé. C'est très rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin, une situation que vous vous retrouvez aussi à Médecins du Monde.
Je pense que là, actuellement, tout le secteur du médico-social en France est affecté, et on le voit, que ce soit les grosses associations, les plus petites, ainsi que des associations qui travaillent avec l'État. Et puis, nous, évidemment, on est également affecté par des coupes de financement au niveau international, notamment depuis l'élection de Trump.
Et au niveau des bénévoles, vous recherchez toujours ou vous...
Tout à fait. On recherche d'autant plus pendant la période estivale que les arrivées sont nombreuses. Donc, des profils médicaux, infirmiers, et puis également des profils en santé mentale.
D'accord. Et donc, alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de donner vos contacts, où est-ce qu'on peut vous retrouver, et si vous avez des événements, des moments phares à venir.
Alors, nous concernant... ils peuvent nous, donc on peut nous contacter, donc Médecins du Monde. Je peux laisser mon numéro de téléphone pour des bénévoles intéressés: 06 29 85 91 05. 06 29 85 91 05.
On le mettra sur Fréquence Mistral.
Et je vous invite également à venir nous rencontrer pour un festival qui aura lieu le week-end prochain, donc le week-end du 27, 28, 29 à Villars-Saint-Pancras, qui est dédié aux initiatives hospitalières dans le Briançonnais, avec différentes associations qui seront présentes, qui sont regroupées dans la plateforme Briançonnaise, donc des associations, des collectifs. C'est aussi l'occasion de venir parler de solidarité, de venir rencontrer des personnes installées sur le territoire depuis plus ou moins longtemps, et de franchir certaines barrières qu'on peut se mettre quand on ne connaît pas ce milieu-là.
Et les refuges solidaires seront présents également.
Évidemment, on sera présent et vous pouvez aussi nous contacter sur contact@refugesolidaires.com, refuge solidaire au pluriel. Et puis oui, venez à ce festival qui est quand même ultra important, qui va être super, c'est la première édition. On défend le territoire accueillant à Briançon.
Merci à tous les deux, Émile Rabreau des Refuges Solidaires et Chloé Lorieux de Médecins du Monde, d'être venus nous parler de l'accueil à Briançon. Et c'est la fin du magazine aujourd'hui. Rendez-vous demain à 7h30 avec Chris pour la matinale depuis Sisteron, qui recevra l'association des maires du 04 des Alpes de Haute-Provence à l'occasion d'une conférence et des ateliers pour les élus. Il vous en parlera plus demain. Bon après-midi à toutes et tous.